et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Le dialogue des religions de ce mercredi 16 mars 2016, la déradicalisation de jeunes militants islamistes en Afrique. Que faire pour remettre ces jeunes sur le droit chemin? Nous parlerons notamment de l'exemple du Kenya. Au micro, Idrissa Sédoudia en compagnie de Joselle Morissin. De l'autre côté de la vitre, nos invités ce soir, Oumar Diaby, économiste et islamologue. Monsieur Diaby, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien, monsieur Sédoudia.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons aussi en ligne de Tombouctou, j'espère, monsieur Amou Mahaman Dadao, qui est maître conférencier. Monsieur Dadao, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Merci. Donc, dans un instant, nous laisserons la possibilité à nos auditeurs de vous parler directement. Et je dis à ces auditeurs que pour participer à l'émission, ils peuvent appeler en direct le 001 202 619 3140. Mais tout d'abord, pour camper le sujet, Jacques Aristide nous parle de l'exemple du Kenya. Le Kenya, où les groupes terroristes Al-Shabaab et État islamique continuent d'attirer en leur sein de jeunes musulmans, mais la résistance s'installe. Une organisation a lancé un programme de déradicalisation visant les jeunes qui en ont été affectés, aussi bien que la formation des imams.
Ranada Nola s'entretient avec deux jeunes hommes radicalisés par l'extrémisme. Son rôle est de les extirper de ce piège, car justement, Ola est le directeur du programme « Renforcer la résilience face à l'extrémisme violent », Brave en sigle en anglais. Le programme a atteint 2000 jeunes Kenyans. Certains le suivent sur décision judiciaire, d'autres de leur propre chef. Les imams en bénéficient également. Ils ont droit à 4 jours de formation pour mieux les aider à contrecarrer le message des radicaux. L'une des annonces du programme a attiré l'attention à l'échelle nationale.
En Somalie, les terroristes tuent les musulmans. Au Kenya, ils cherchent à tuer des non-musulmans pour créer l'animosité entre les religions. Mandera, 22 décembre 2015, des Kenyans musulmans ont protégé des Kenyans face aux attaques des extrémistes. Ces braves Kenyans ont sauvé des vies. Ils ont protégé leurs voisins.
La mosquée Riyada se trouve à Pumwani, à la périphérie de Nairobi. En 2013, un rapport de l'ONU a lié l'un de ses responsables avec le financement du terrorisme. L'imam Aizadin Omar est attaché à cette mosquée depuis 5 ans maintenant. Le programme Brave l'aide à repérer ceux faisant montre de penchants extrémistes.
Pour que ces jeunes acceptent d'être déradicalisés, cela prend du temps et il faut le faire étape par étape. La tâche est difficile pour ceux qui sont radicalisés à l'extrême, mais par la grâce d'Allah, nous y parvenons au bout du compte.
Abdul Mwangi est l'un de ces jeunes, appelé par des prédicateurs radicaux à se lancer dans le djihad, la guerre sainte. Une idée qu'il répugne aujourd'hui après avoir passé par le programme Brave.
We were able to be told about the issue of the narratives.
On nous a fait comprendre le vrai message des extrémistes. Ce que je peux dire à mon nom et au nom d'autres jeunes comme moi est que si vous me citez quelque chose du Coran, oui, je vais l'accepter. Mais si, ce faisant, vous me demandez de faire quelque chose, j'irai moi-même voir ce que le Coran dit ou les hadiths ou d'autres livres qui sont cités.
Jusqu'à présent, Brave a formé environ 150 religieux et imams, mais beaucoup demeurent à l'écart par crainte de représailles. Pour des observateurs, les causes profondes comme le chômage doivent également être prises en compte.
Merci à Jacques Aristide. Maintenant, nos invités pour commencer. Oumar Diaby, économiste et islamologue qui vit aux États-Unis, et Ama Mahaman Dadao qui est maître conférencier de l'islam à Tombouctou. Alors, pour commencer, Monsieur Dadao, Il y a eu récemment dans votre région, d'abord c'était Bamako, ensuite ça a été Ouagadougou, et ce week-end Grand Bassam en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui même un nouvel attentat avec 22 morts dans une mosquée au Nigeria. Comment vous réagissez à tous ces événements, Monsieur Dadao?
Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, aujourd'hui, le message de l'islam est mal passé, parce que souvent, il y a une sorte de négligence de la part même des autorités, parce que qui, on ne peut pas être prêcheur qui veut. Il faut vraiment des hommes vraiment avertis qui connaissent réellement le message de l'islam. Le prophète, dans son temps, il n'envoie pas n'importe qui. Il choisit les vrais chevronnés pour essayer d'aller transmettre les missions de l'islam. C'est pour cela que aussi, à l'heure du temps du prophète, c'est la même chaîne qui continue. Mais actuellement, tout le monde est prêcheur, tout le monde est prédicateur. Alors, il n'y a pas une formation de base qui peut permettre vraiment à quelqu'un vraiment de véhiculer le message de l'islam.
Merci.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle le texte de l'islam qui est là, et il y a le contexte dans lequel aussi on devait le dire.
Merci, monsieur
Dadao. Alors, si on ne fait pas la différence entre le texte et le contexte, on n'est pas...
Très bien. Monsieur Dadao, restez avec nous. Je voulais donner l'occasion à Monsieur Omar Diaby aussi de répondre à cette question. Comment expliquez-vous tout ce qui se passe actuellement là, Bamako, Ouagadougou, Grand Bassam et aujourd'hui au Nigeria, dans une mosquée en plus?
Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Et je remercie tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Et je profite de l'occasion pour dire que ces actions barbares, complètement illégales et immorales, doivent être condamnées par tout individu, par toute personne ayant le sens de l'humanité, ayant le sens du droit, de la morale, et ayant la foi en Dieu et en la résurrection, croyant à la véracité des messages qui ont été communiqués par tous les prophètes, et en particulier de ceux des prophètes. Et je profite de l'occasion pour dire que toutes les autorités morales, religieuses et surtout politiques doivent envisager toutes sortes de moyens, de stratégies, de plans afin de mettre fin à ce genre d'agissement dans tous les pays du monde. En particulier, les pays qui sont dans cette situation doivent être aidés par tout le monde afin d'éradiquer complètement ce genre de comportement et surtout de mener devant la barre toutes ces personnes qui essaient d'entraîner les jeunes vers ce genre de comportement.
Merci, M. Diaby. Maintenant, il y a un auditeur qui nous appelle, c'est Christian Djerabé. Christian, vous avez l'antenne.
Oui, bonsoir à tous les invités.
Allez-y.
Par rapport à la montée du terrorisme, le terrorisme en Afrique, c'est pas facile de ramener les jeunes sur le droit chemin. Parce qu'ils ont déjà l'idée de venger. D'autres disent qu'ils vont, je ne crois pas. Et ma question, j'ai une question à poser. Au moment où ils veulent commettre des attentats, ils crient au nom de Allah Akbar. Et parfois dans les mosquées, on voit aussi certains musulmans qui disent Allah Akbar. Je me demande pourquoi ces mots et commettre des attentats. Est-ce que l'islam demande à ce qu'on fasse ça pour tuer ses frères?
Merci, merci pour votre question. Alors, nous retournons à M. Amou Mahaman Dadao. Monsieur Dadao, alors, la question de l'auditeur, c'est pourquoi il crie Allahu Akbar, Allahu Akbar qu'il entend aussi dans les mosquées. Pourquoi? Est-ce que c'est... Enfin, il se demande pourquoi.
Bon, oui, j'ai bien compris votre question. En réalité, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas parce que il faut faire peut-être... Ils ont une idée pour ça. Ils ont un sens quand même pour ça. Mais en réalité, quand même, moi, je ne sais pas quand même pourquoi ils disent ça.
Monsieur Diaby?
Je sais quand même, dans les règles de l'islam, quand il y a la joie, quand il y a la joie, on doit toujours crier Allahu Akbar. Ça, c'est dans l'islam, c'est Il y a des endroits, quand le prophète arrive là-bas, ses camarades et ses camarades, ils crient « Allah Akbar, Allah Akbar ». Mais pour eux, je ne sais pas dans quel sens vraiment ils disent, pourquoi ils le disent, je ne sais pas.
Et Allah Akbar, bien entendu, c'est « Dieu est grand ». Monsieur Omar Diaby, pourquoi crée-t-il...
Je voudrais dire ici un hadith du prophète qui est très important à être compris. Il dit « Inna hadha dina lamatinun fa'awrit fihi birrifqe ». Il dit « Cette religion est très complexe, pénétrez-y avec souplesse et agilité ». Et maintenant, lorsque vous entrez dans cette religion sans agilité, sans souplesse, sans la volonté de vivre de façon intime cette religion, cette foi, sans la volonté de créer ces sentiments, cette relation assez forte entre vous et Dieu, et que vous vous transformez en juge des gens, vous agissez comme ces gens-là sont en train d'agir. Donc en exposant des joies, en tuant les gens, en exposant des joies, tandis qu'on tue les gens, on éprouve ce sentiment de détestation, de haine envers les gens, et on pense qu'on a agi au nom d'Allah. Tout au contraire, on est en train d'agir au nom de Shaitan, on est en train de donner une surdimension à son propre ego. Donc je crois que le fait de dire Allahu Akbar est un amalgame et qu'il faut combattre, il faut faire avorter. Et on peut le faire grâce à tous les moyens dont nous disposons. Donc je crois que ces jeunes qui crient Allahu Akbar tout en donnant la mort à autrui, ils ne font que ce que leurs âmes complètement serviles et complètement démoniaques les appellent à faire.
Ok, alors le profane que je suis pourrait peut-être essayer, enfin je pensais au fait que c'était pour montrer qu'ils étaient des martyrs et qu'ils allaient directement au paradis. Alors c'est pourquoi ils crient Allahu Akbar pour bien montrer que bon, ils sont prêts pour le martyr. C'est ça ? C'est pas ça du tout ?
Non, parce que en fait, la certitude d'accéder au paradis, on ne peut pas l'avoir. On a la foi, l'espoir que l'on va accéder au paradis, mais personne ne peut vous dire avec certitude, avec conviction, de façon inébranlable et irréversible qui va accéder au paradis. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est d'espérer en la miséricorde de Dieu, en sa compassion. Maintenant, quand vous agissez selon cette dynamique, selon cette optique, il y a des actions que vous ne pouvez pas faire. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'islam a installé une configuration sociale. Et cette configuration sociale, elle est très importante à être comprise. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'islam a établi 5 entités. Et l'individu d'abord, la famille, la société civile, l'État et la communauté internationale. Il y a des fonctions qui ne relèvent que de l'État, des fonctions qu'on appelle régaliennes. Seul l'État a le droit d'agir, par exemple en faisant la guerre ou la paix. Maintenant, quand vous agissez en dehors de l'État, en dehors de l'autorité que l'État vous octroie pour agir en son nom, là, vous violez complètement, non seulement les dispositions à caractère légal, mais c'est toute la morale, toute l'éthique qui doivent accompagner la violence en tant que système de répression que l'État donne la légitimité.
Merci, M. Omar Diaby. Je rappelle à nos auditeurs que le thème du dialogue des religions de ce mercredi, c'est la déradicalisation de jeunes militants islamistes en Afrique. Que faire pour remettre ces jeunes sur le droit chemin? Nous avons Bakary Keïta en ligne. Bakary, vous avez l'antenne.
Alors, bonsoir à vous et à vos invités. Donc, le thème est riche. Donc, ce que moi je propose, ça va dépendre quand même des nombreuses médiations des élus locaux. Tout récemment, par exemple, au nord du Mali, il y a 200 combattants qui étaient fidèles à Amadou Koufa, et Amadou Koufa qui est rallié à Yagla. Ces 200 combattants ont accepté quand même de déposer les armes suite à des tractations menées par des élus locaux et des notabilités. Donc en principe, on doit quand même essayer de les proposer, c'est-à-dire des garanties pour faciliter leur reddition et aussi à longueur de leur proposer aussi des emplois parce que beaucoup s'enrôlent dans des guerre de ce genre à cause quand même de la pauvreté, le chômage.
Merci.
Aussi, les imams aussi doivent multiplier vraiment les sensibilisations sur l'islam authentique qui cultive quand même l'amour, l'amour du prochain, la non-violence et surtout la cohabitation parfaite de tous les harmonieux, de tous les réfugiés.
Merci.
Moi, pour moi, ce sont les seules voies quand même qui feront que
okay.
les jeunes acceptent de déposer les armes.
Ok, Bakary Keïta, merci beaucoup. Alors, puisque vous avez parlé de l'exemple dans le nord du Mali, nous avons à Tombouctou M. Amou Mahaman Dadao, qui est maître conférencier. Monsieur Dadao, pouvez-vous nous parler de cet exemple dont vient de parler M. Bakary Keïta, les élus locaux et M. Kofa?
Oui, effectivement, en réalité, tout problème qui se passe dans le monde, avec les dialogues, quand même, ça peut se régler, quel que soit le degré quand même d'avancement. Ça, c'est clair. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, le point le plus important, c'est ce qu'ils viennent de signaler. Vous savez que le chômage des jeunes, ça crée beaucoup de choses. Parce que quand un jeune chômage ne travaille pas, alors il a tellement de vœux dans la société, il est très facile d'être manipulé. Et quand on chôme, on n'a pas d'argent, on n'a rien, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ta maman est là, ton père est là, il n'y a pas de travail. Tu es diplômé, tu n'as pas de travail, alors tu ne vois plus rien. Alors tu es prêt vraiment à être manipulé. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment créer la déperdition de ces jeunes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les autorités s'impliquent avec conscience et confiance, il y aura quand même une solution.
Très bien. Alors,
Donc, je crois que c'est dans ce cadre-là que il y a eu quand même la solution, donc je viens de dire.
Ok, donc vous avez parlé au début de texte et de contexte, et vous avez aussi parlé de, comment dirais-je, du fait que n'importe qui pouvait devenir imam ou prêcheur, et que vraiment il y a une grande confusion qui fait que le message ne passe pas très bien. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre un phénomène pareil ? Qui est vraiment mortel.
Il faut vraiment surveiller l'enseignement. Il faut surveiller l'enseignement. Il faut que l'enseignement soit vraiment un enseignement vraiment encadré.
Et qui doit encadrer cet enseignement?
On ne peut pas apprendre le Coran ou bien le Hadith sans un maître qui te forme, un maître qui est bien averti. Pour cela que si vous vérifiez dans l'ancien temps, il y a des attestations qui sont délivrées aux imams, aux professeurs, qui doivent vraiment délivrer les leçons.
Donc,
ils sont habités vraiment à donner des leçons parce qu'ils ont une attestation qui leur permet de transmettre le message de l'islam.
Okay.
Dans le temps, celui qui n'a pas cette attestation, il n'a pas droit à délivrer quoi que ce soit.
Alors, donc, tout à l'heure, votre collègue Omar Diaby avait parlé du rôle de l'État qui est reconnu et qui est reconnu dans l'islam, qui a un rôle primordial à jouer dans l'islam. Alors donc, M. Diaby, est-ce à l'État maintenant d'encadrer tous ces imams et d'amener un peu de logique dans cette situation ? M. Diaby ?
Agir ensemble, l'individu, la famille, la société civile, l'État. Et les actions que ces différentes entités doivent mener peuvent être complémentaires, non seulement au niveau de la formation, mais aussi de la dissémination de la bonne information. C'est très important. Quant à l'individu, dès qu'il est majeur et mature, il doit savoir quels sont les devoirs religieux qui lui incombent. Il doit les chercher par tous les moyens, excepté les moyens qui sont de la violence. Maintenant, quant à la famille, le père, la mère, les oncles, les tantes, chacun doit jouer un rôle qui lui convient et qui convient à former l'individu, à installer en lui la vraie foi. Et quant à la société civile, je parle de tous les acteurs qui ne sont pas politiques et qui cherchent à réaliser leurs intérêts particuliers. Ils doivent savoir que les intérêts particuliers ne peuvent pas être réalisés tant qu'il n'y a pas un climat et un environnement de paix, de paisibilité, de justice et d'équité. Donc, ils doivent concourir à tout ce que des institutions crédibles, efficaces, efficientes soient installées pour pouvoir la formation qui s'impose. Maintenant, quant à l'État, il peut agir sur beaucoup de volets, premièrement sur le plan purement politique, alors créer les conditions politiques qui favorisent l'épanouissement, qui favorisent l'expression, qui favorisent la participation des citoyens, quel que soit le bord religieux auquel ils appartiennent. En même temps, sur le plan législatif, élaborer une plateforme de droits qui permette aux gens de savoir quels sont leurs droits et quelles sont les limites de ces droits. Et en même temps, insister de façon tout à fait importante sur les sanctions qu'il faut envisager en cas de violation et en cas de comportement de ce genre-là. Mais si l'impunité règne à quelques niveaux que ce soit, ça peut être rampant dans certains, à certains niveaux, et ça peut entraîner les gens à vouloir posséder des arbres. Et surtout contrôler la possession des arbres, la circulation des arbres, c'est très important. Tant qu'on ne parviendra pas à contrôler la circulation des armes, les achats, les approvisionnements, les ventes, qui doit posséder une arme, surtout une arme qui est utilisée sur le champ de bataille, il faut que l'État s'occupe de cela. Et en même temps, contrôler la porosité au niveau des frontières. Donc établir une coopération interétatique afin que chaque État participe à une plateforme qui est commune, dont le but principal est d'endiguer la radicalisation et les violences qui se font au nom de quelques
États. Je crois que, M. Diaby, votre point a été bien illustré par le fait qu'ils sont allés à Bamako, ils sont allés à Ouagadougou, ils sont allés à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Et ça montre que les frontières sont effectivement poreuses et qu'il y a nécessité de faire quelque chose à ce niveau. Mais on a en ligne Alphonse Mouaki. Alphonse, vous avez l'antenne.
Ah oui, bonsoir, c'est Lydia.
Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Lydia.
Bonsoir.
Moi, je pense qu'il faut des États structurés. Lorsqu'on a des États sont crédibles, il faut commencer à réguler la vie des hommes. Notamment dans le domaine de la religion, il faut commencer à réguler les religions. Par exemple, dans le cas de l'islam, il faut former les imams qu'on en a fait à l'islam ici, pour que véhiculent le message de la vérité, de l'amour du prochain, du pardon, de la non-violence, de la sacralité de la vie, du respect de la vie.
Ok.
Non seulement dans les...
Ouais. Oui, merci beaucoup. Alphonse, et justement, j'allais demander à nos invités, M. Amou Mahaman Dadao, qui nous parle de Tombouctou, et M. Omar Diaby, qui vit ici aux États-Unis, j'allais leur demander si, effectivement, l'État doit réguler les religions et si on ne doit pas aussi envisager des sanctions contre ceux qui ont un message de haine.
Vous savez qu'en réalité, l'État est responsable de ce qui se passe, ça, c'est clair. L'État doit veiller sur la sécurité des personnes. L'État doit veiller sur la formation des personnes. L'État doit veiller sur vraiment l'éducation des personnes. Donc tout ça, ça revient à l'État. Mais en collaboration avec les leaders religieux, ils doivent voir ensemble comment il faut vraiment changer les méthodes de transmission de messages.
Alors,
vu la situation que nous vivons aujourd'hui, on doit vraiment revoir les méthodologies à utiliser pour essayer vraiment de mieux cerner les préceptes de l'islam.
Merci beaucoup. C'était bien sûr M. Omar Diaby. Un auditeur, Mamadou.
Alors, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Bon, moi, je voudrais répondre à la question de notre auditeur qui nous avait appelé à Kinshasa. Soit disant que quand les terroristes disent Allah ou Akbar, et quand ils ont explosé les bombes ou quand ils ont tiré sur les gens.
OK.
Moi, je vais leur répondre, soit disant que ce n'est pas pour dire que toute personne qui dit aujourd'hui Allah ou Akbar qu'il est musulman ou toute personne aujourd'hui qui dit Alléluia et qu'il est chrétien. Aujourd'hui, la science a évolué. Tout le monde connaît parler n'importe quelle langue. S'il veut apprendre la langue qu'il veut parler, il peut parler. Mais ça ne veut pas dire que quand les gens prennent les armes, ils rentrent dans les mosquées, ils rentrent dans les différentes marchés, pour tuer les gens et disent Allah Akbar, on peut les dire que ce sont des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Parce qu'un vrai croyant ne peut pas tuer quelqu'un. Dieu a dit dans le Coran, « On manque à la mouminane, mouta amidane, fahou akashir. » Quiconque qui est croyant, par fantaisie, l'intéressé, là, c'est un mécréant. Donc, ça ne veut pas dire que les gens-là, ce sont des musulmans ou ce sont seulement des bandits. Ce ne sont même pas des musulmans.
Monsieur,
parce qu'un musulman n'était pas tué quelqu'un.
Merci beaucoup, Mamadou.
Il a interdit de ne pas tuer un chien, un sang innocent.
Merci.
Donc, on ne peut pas tuer comme ça. Si vous voyez que quelqu'un a tué comme ça, c'est qu'il n'est pas musulman.
Merci beaucoup, monsieur Mamadou. Alors, monsieur Dadao, des bandits, hein?
Oui.
Sont des bons.
Je voulais vous donner un petit hadith, si le temps le permet.
Allez-y.
En fait, une fois, il avait envoyé des missionnaires. Il a mis des chrétiens devant ces missionnaires pour aller en mission. Et il les a donné l'ordre de suivre les chefs de mission. Tous ceux qui nous disent de faire, ils voient le verre. Alors, lorsqu'ils sont partis aller loin, il les a dit, le prophète vous a dit que tout ce que je vous dis, il faut le faire. Ils les ont dit, dis bon, amenez du bois. Ils ont amené du bois. Il a dit, mettez la dame du feu. Ils ont mis la dame du feu. Il dit, bon, le prophète a dit de me suivre ce que je vous dis. Rentrez dans le feu. Alors là, il s'était divisé en deux parties. Il y a un groupe qui dit qu'on va rentrer parce que le prophète nous a donné l'ordre de le suivre. Il y a d'autres qui disent non, nous on a suivi le prophète, c'est pour ne pas rentrer dans l'enfer. Donc, il y a eu la tendance entre ces deux groupes. Donc, les autres ont gardé les autres pour ne pas tomber dans le feu. Lorsque le feu s'est atteint, ils sont retournés chez le prophète, ils leur ont posé la question. Le prophète les a dit, quand je vous envoie en mission, et quand je vous dis de suivre quelqu'un, il devait vous mettre dans la voie qui est normale. Si vous étiez rentré dans le feu, vous allez rester là dans toute votre vie.
Merci.
Donc, c'est pour vous dire que le prophète, quand il envoie quelqu'un en mission, il donne l'ordre de suivre ce qui est normal.
Voilà.
Ce qui est les recommandations de l'islam.
Très bon exemple,
donc,
monsieur.
Donc, pas suivre quelqu'un, si vraiment ce qu'il dit, le message qu'il donne n'est pas correct, on ne doit pas le suivre.
Merci beaucoup, monsieur Dadao. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps et nous disons à M. Souleymane Keïta, peut-être la prochaine fois. Cette émission, eh bien, c'est terminé. Nous étions en compagnie de Oumar Gabi, économiste et islamologue qui vit aux États-Unis. Nous avons eu de Tombouctou, M. Amou Mahaman Dadao, que nous remercions beaucoup. Et de l'autre côté de la vitre, comme toujours, Joselle Morissa. Idrissa Seydou Dia pour le dialogue des religions, VOA Afrique.